Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h bien sûr avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le Club des Idées, c'est le nouveau rendez-vous d'Europe Soir. On vous décrypte le monde qui change, comprendre, débattre et prendre le temps de se faire son opinion. Et ce soir la France, est-elle toujours Charlie? Droit au blasphème, liberté d'expression, montée d'un certain islam politique? On posera la question à nos invités à la veille du procès des attaques terroristes de 2015 et alors que l'hebdo Charlie republie une caricature du prophète. 19h15, c'est la carte blanche du Club des Idées et ce soir, ce sera avec le chef d'entreprise Denis Père. Et puis 19h50, on replongera dans les archives du Club des Idées pour la rubrique Le Jour Où. Mais d'abord le journal avec vous Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Moi personnellement j'étais un peu contente parce que rester toute la journée à la maison à rien faire, c'est pas une vie quoi.
Le plus dur est passé, la rentrée masquée, c'est fait et on verra que dans l'ensemble, les contraintes sanitaires ont été bien respectées.
Un témoignage exceptionnel dans ce journal, alors que Charlie Hebdo a décidé de republier, je le disais, ses caricatures de Mahomet, la sœur de l'une des victimes de l'hypercacher se confie au micro d'Europe 1.
Elle dit notamment ce qu'elle attend de l'ouverture demain du procès des attentats de 2015.
Le gel hydroalcoolique dangereux pour les yeux de nos enfants. Déjà plusieurs dizaines d'accidents qui ont parfois, nous le verrons, conduit à des hospitalisations.
Ils sont encore pour certains traumatisés, les habitants de l'usine Lubrizol de Rouen qui répondent en ce moment à une grande enquête sanitaire. Et puis après Hong Kong, Taïwan, dans le viseur de Pékin, considéré par la Chine comme une province rebelle appelée à revenir dans son giron par la force si nécessaire, nous dira Didier François.
Et puis la tendance météo comme chaque soir avec Anissa, des lunettes de soleil et des pulls demain au programme. Il ne faut pas choisir, il faut avoir les deux,
exactement,
c'est ça ?
Exactement Julien, le pull parce que les températures restent encore fraîches et en dessous des moyennes de saison, les lunettes de soleil parce que lui, il brille demain dans le ciel de presque toute la France. Attention, quelques averses sont possibles, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Première journée de classe donc pour près de 12 millions d'élèves. Certains n'avaient pas revu un prof pour de vrai, comme on dit, depuis bien longtemps.
Victor Delande, vous avez une chance inouïe puisque vous avez passé cette journée dans un collège-lycée parisien dans le 13e arrondissement. Ça vous a rappelé d'ailleurs des souvenirs.
Bien sûr.
Alors comment est-ce qu'on reprend ces marques après plus de 5 mois d'absence pour certains?
Alors déjà, il faut se réhabituer au son au collège et au lycée. Il y a ces bruits si particuliers comme cette sonnerie à chaque heure. Il y a ensuite le masque sur tous les visages, dans toutes les conversations, trop encombrant pour les uns, indispensable pour les autres. Et puis le masque aussi comme nouvelle arme de délation, Ondine, élève de seconde.
J'ai vu une prof enlever son masque alors que la CPE a elle-même dit que personne ne devait enlever son masque.
Le retour en classe après une année si compliquée, on imaginait des tonnes de questions sur la sécurité sanitaire, des ados inquiets. Ben en fait non, les mêmes questions que les années précédentes, l'emploi du temps, les profs. Qui sera le plus sévère, le plus absent? Et puis les questions sur les copains. Louis, en 6e, est dépité.
Ils sont pas dans ma classe. Il y a 3 classes et ils sont dans la 1 et la 3 et moi je suis dans la 2.
Une rentrée test aussi à l'heure du déjeuner. Gel hydroalcoolique à l'entrée du réfectoire, sens de circulation et des surveillants comme Vanessa qui veillent au placement des élèves.
On regarde bien comment les élèves se placent, en quinconce, pour qu'ils puissent bien manger dans des bonnes conditions. Ça se passe bien.
Au menu, c'était couscous royal, tout le monde était satisfait. Et globalement, la rentrée s'est très bien passée. De l'avis de Louise, en seconde, c'est pas si mal l'école finalement.
Moi personnellement, j'étais un peu contente parce que rester toute la journée à la maison à rien faire, c'est pas une vie quoi.
Les élèves, surtout au lycée, m'ont quand même confié une galère qui ne va pas disparaître. Le réveil, et oui, il va falloir à nouveau se réveiller tous les matins.
Et vous avez retrouvé le virus de l'école, vous?
Oui, totalement.
Merci Victor Delande. Et puis c'est une autre rentrée qui est passée plus inaperçue ce mardi.
Cannes, la ville des congrès, accueille depuis ce matin le tout premier salon professionnel post-confinement Event Meetings, salon autour de l'événementiel qui devait se tenir en avril, reporté en juillet, puis finalement donc en septembre.
Frédéric Michel a passé la journée sur place.
Moins d'objets promotionnels, de petits fours et boissons sur les stands, mais en revanche du gel hydroalcoolique partout. Pour ces professionnels de l'événement, l'essentiel est de pouvoir à nouveau tenir des congrès et meetings. Romuald Gadra, l'organisateur du salon.
Les entreprises ont besoin de faire du business, donc il était important aussi de montrer qu'on pouvait faire des événements en respectant les règles sanitaires.
Michel Bézari crée des stand design pour tout type d'événements. Depuis le début de la crise, son entreprise de 35 salariés tourne au ralenti. Si l'activité ne repart pas, il pourrait licencier un quart de son effectif.
Malgré ces précautions que nous pouvons prendre, je déplore que l'on ne nous permette pas d'aller au-delà de 5000 personnes. Nous sommes suffisamment professionnels pour être garants de la sécurité. Et là, le gouvernement ne nous fait quelque part pas confiance.
Fortement impacté par la crise sanitaire, le monde de l'événement a besoin d'un rebond. Mounir Faïd est responsable du bureau des congrès à Montpellier. Il n'a pas hésité pour ce premier salon à venir avec ses équipes.
Malgré le contexte actuel, il faut qu'on reparte de l'avant et qu'on montre aux clients que Montpellier est toujours présente, a toujours envie d'accueillir des événements et que maintenant notre vision elle est beaucoup plus sur 2021.
Et le risque, si l'activité ne reprend pas en 2021, c'est de voir beaucoup d'entreprises mettre la clé sous la porte.
Le reportage de Frédéric Michel à Cannes, donc pour Europe 1.
Le gel hydroalcoolique, Isabelle, fait désormais partie de notre vie, au même titre que le masque, ça on le savait, mais attention, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il peut présenter un danger pour nos enfants en particulier.
Effectivement, Virginie Salmen, le ministère de la Santé alerte après le signalement d'une soixantaine de cas de projection dans les yeux, des cas qui ont entraîné des troubles oculaires depuis le déconfinement. C'est donc très sérieux, on parle là, Virginie, des enfants âgés de 4 ans en moyenne et qui mesurent autour d'un mètre de hauteur.
Oui, c'est exactement ce qui est arrivé hier à Sophie et son fils Robin, qui a lui 3 ans, au jardin d'acclimatation, un parc d'attractions parisien.
On allait au stand de la pêche au canard et il fallait à ce moment-là se désinfecter, se demander devant chaque manège. Le problème, c'est que les gels sont présentés dans des colonnes de distribution qui font à peu près un mètre, puisque mon fils, c'est sa taille, et qu'en appuyant sur la pédale, en fait, il a appuyé et le gel s'est projeté dans son œil droit, de manière horizontale, en fait. Ça s'est projeté d'un coup, donc il a hurlé, il en avait partout dans les yeux. Je devais essayer de lui faire des lavages, donc de le tenir. Il avait une force décuplée. On était à 3 adultes à le tenir, on n'y arrivait pas pour essayer de lui ouvrir l'œil. Et surtout, c'est très impressionnant en tant que mère parce que très vite, il y a cette poche remplie d'eau en fait, qui se forme et vous ne voyez plus la pupille de votre enfant.
Résultat, Sophie a appelé les pompiers qui ont emmené son fils de 3 ans aux urgences où les médecins lui ont administré pommade, corticoïdes et antibiotiques. A priori, il n'a pas de surinfection. C'est le risque, notamment avec les tout-petits. Difficile à soigner, nous explique Magali Labadie du centre anti-poison du CHU de Bordeaux.
L'ennui, si vous voulez, c'est que quand ils en reçoivent dans les yeux, ils ont immédiatement une douleur et ils ferment les yeux très fort. Et on a donc énormément de mal à les rincer. Si on laisse le gel dans les yeux, eh bien on peut avoir des atteintes de la cornée extrêmement sévères qui nécessitent parfois des hospitalisations.
Elle conseille aux familles de ne pas laisser les enfants se servir seuls du gel hydroalcoolique. Et en cas de projection dans les yeux, l'idéal, alors c'est pas toujours facile à faire, c'est de se rincer à l'eau claire pendant 15 minutes.
Bien, merci pour ces infos, Virginie Salmen.
Anne Hidalgo dénonce ce soir un scandale écologique. Enquête ouverte après les révélations d'Europe 1 ce matin sur une pollution de la Seine par le cimentier Lafarge, des rejets polluants issus d'une cimenterie.
Le lancement cette semaine à Rouen d'une grande enquête épidémiologique après l'incendie de l'usine Lubrizol.
4000 adultes et un peu plus de 1200 enfants de tout le département tirés au sort, interrogés en ligne ou bien par téléphone par Santé publique France, qui souhaitent surtout analyser la perception de l'incendie et l'impact aussi sur la santé.
Jean-Gabriel Bourgeois est retourné sur place à la rencontre des habitants. Certains sont encore, vous allez l'entendre, traumatisés.
C'est toujours les odeurs qui rappellent cette catastrophe.
Des émanations récurrentes près d'un an après l'incendie. Simon de Carvalho dirige une association de sinistrés qui subissent encore aujourd'hui les effets de l'accident industriel.
Les gens se plaignent de maux de tête, de picotements, de vomissements, toujours. Et j'ai été faire un tour à la campagne, là, il y a quelques jours. On voit toujours, là où s'est déposée la suie, c'est toujours noir. Et c'est sur une partie de la toiture, là où le vent a posé, l'autre côté c'est tout blanc. Et là c'est tout noir, il y a encore de l'huile.
On veut des réponses claires, réclament les riverains de Lubrizol, inquiets pour leur santé. Jean-Philippe est étudiant, le panache de fumée est passé au-dessus de chez lui.
Moi je sais que vers 30-35 ans, j'irai faire un check-up complet de tout ce qui est cancer, etc. au niveau médical. Parce que, à mon avis, c'est plus sur le long terme que ça nous attend.
Charline est enceinte de 8 mois et comme beaucoup, elle se demande s'il ne faudrait mieux pas quitter la ville.
Je me dis, est-ce que j'ai envie d'élever mon enfant ici, dans cette air, dans cet environnement pollué ? J'aimerais effectivement être un peu rassurée.
C'est tout l'objet de l'étude épidémiologique lancée par Santé publique France. Les premiers résultats seront dévoilés l'hiver prochain. Rouen, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
À suivre dans votre journal de 19h, un témoignage exceptionnel, celui de la sœur de l'une des victimes de l'hypercachère de Vincennes.
Et puis Taïwan, va-t-il devenir le prochain Hong Kong ?
Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
Avec la suite du journal d'Isabelle Millet à 19h10, alors que s'ouvre demain le procès historique des attentats de janvier 2015, c'est une décision lourde de sang. Charlie Hebdo republie les caricatures du prophète Mahomet qui avait fait de l'hebdomadaire satirique une cible des djihadistes.
Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais, justifiait le directeur de Charlie Hebdo, Riz, dans le numéro dont la couverture reprend donc ces caricatures. La haine qui nous a frappés est toujours là et depuis 2015, elle a pris le temps de muer, de changer d'aspect pour passer inaperçue et pour poursuivre sans bruit sa croisade impitoyable. Des mots qui nous replongent en ce mois de janvier 2015, au cours duquel la France a basculé dans l'horreur du terrorisme. Charlie, bien sûr, mais aussi Montrouge et l'hypercachère de Vincennes. Annie est la sœur de François-Michel Saada, l'une des quatre victimes tuées par Hamedi Coulibaly à l'hypercachère. Ce jour-là, il était simplement sorti pour faire ses courses. À peine entré dans le magasin, il a été abattu. Alors ce procès, elle va le suivre, bien sûr. Et elle a accepté de se confier au micro Europe 1 de Chloé Triomphe.
Je ne peux pas dire que ça fait 5 ans que j'attends ce procès. Je savais qu'il allait arriver. Je m'y attendais, mais en même temps, je le redoutais. C'est un moment qui risque d'être assez pénible, assez difficile à vivre. D'autant plus que les principaux protagonistes ne sont plus là pour répondre de leurs actes. Donc c'est un procès, mais qui n'aura peut-être pas la même valeur que si on avait l'ensemble des coupables dans le box. Honnêtement, je préfère ne rien attendre. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. On verra sur le moment.
Est-ce que vous aurez envie, besoin d'évoquer la mémoire de votre frère François-Michel Saada ?
Oui, certainement. Mais ce qui va se dérouler est tellement antinomique avec ce que représentait mon frère que ça me semblerait presque incongru. Incongru dans le sens où mon frère était quelqu'un qui aimait la vie, qui respectait les autres. Alors que là, on va faire le procès de gens qui ne respectent rien et qui n'accordent aucune valeur à la vie. Je sais déjà que je n'assisterai pas à tout parce qu'il y a des choses que je ne veux pas entendre. Et en revanche, il y a des choses que je veux savoir.
Mais quelle que soit votre décision personnelle, est-ce que l'essentiel pour vous, c'est que ce procès ait finalement lieu ?
Il est important que justice se fasse. Bien sûr que justice soit rendue. Il est important que ce procès ait lieu, bien entendu. Personnellement, ce que moi, ce procès pourra m'apporter, honnêtement, je ne vois pas. Quel que soit le verdict, ça ne me ramènera pas mon frère.
Vous n'avez pas appris tout de suite que votre frère faisait partie des victimes ?
Je l'ai su que vers 20h30, mais j'avais un très mauvais pressentiment. Dès le début d'après-midi, dès que j'ai su ce qui s'était passé, je lui envoyais des SMS, j'essayais de le joindre au téléphone, et bien sûr, il ne répondait pas, et c'était comme s'il était à côté de moi, et qui me disait « mais je ne peux pas te répondre, je suis mort ». C'était une attente interminable.
Et malgré tous ces sentiments, vous serez là à l'ouverture du procès ?
Oui, je serai là le premier jour. Je vous avoue que je suis morte de trouille.
Voilà, Annie-Laure Saada-Gutowski, la sœur de François-Michel Saada, l'une des quatre victimes donc de l'hypercachère de Vincennes. Un témoignage recueilli par Chloé Triomphe, à retrouver dans son intégralité sur europe1.fr.
Et l'on vous renvoie également vers le nouveau podcast d'Europe 1 Studio, Le Son de Vie, avec le journaliste Sébastien Guyot. Témoignage d'hommes et de femmes qui ont toutes et tous été victimes d'un trauma, d'un accident de la vie, qu'il s'agisse d'un attentat ou d'une maladie, et qui ont cheminé pour surmonter la douleur. Et puis 2 mois après l'adoption de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, cette fois, c'est Taïwan qui est dans le viseur de la Chine.
« Je suis taïwanais », a lancé en mandarin le président du Sénat tchèque en visite sur place, paraphrasant bien sûr le célèbre discours de Kennedy à Berlin. Les États-Unis multiplient également les signaux de solidarité envers l'île nationaliste. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce qui se passe en fait, Didier, c'est que, comme pour Hong Kong, Xi Jinping, en fait, le président chinois rêve de mettre au pas la petite île rebelle.
Oui, quitte à employer les grands moyens, parce qu'au cours des 3 dernières semaines, l'armée chinoise a organisé pas moins de 4 manœuvres militaires d'ampleur dans le détroit de Taïwan. Alors, multipliant les incursions et de ses chasseurs-bombardiers et de ses frégates dans l'espace aérien et dans les eaux territoriales de la petite république, dont Pékin refuse d'envisager l'indépendance. Il faut savoir qu'après la victoire de Mao Tse-tung sur le continent chinois en 1949, les derniers vestiges du gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek ont trouvé refuge sur cette île et que depuis ce temps-là, eh bien, le pouvoir communiste considère Taïwan comme une province dite sacrée, un territoire lui appartenant de droit, inséparable de la Chine populaire et qui doit donc réintégrer son giron au même titre que Hong Kong ou Macao. Mais autant vous dire que l'expérience hongkongaise de ces derniers mois a sérieusement refroidi les ardeurs des Taïwanais, même les plus favorables à une réunification. Les derniers sondages d'opinion indiquent clairement l'attachement de la population de Taïwan à son système démocratique. 70% des 23 millions d'habitants disent se sentir taïwanais. Ils sont moins de 3% à se définir comme chinois et 25% à se considérer un peu comme les deux.
Ce qui ne laisse aucun espoir à Pékin de récupérer Taïwan à la suite d'un référendum ?
Absolument aucune chance. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle la Chine multiplie ses menaces et ses pressions militaires depuis son coup de force à Hong Kong. C'est également la raison pour laquelle les Occidentaux ont décidé de rendre plus visible leur solidarité avec Taïwan. La semaine dernière, donc, cette visite du secrétaire d'État américain à Taipei, c'est la première depuis 1979, c'est assez symbolique. Et puis c'est le sens aussi de cette déclaration tchèque soutenue par la France, qui vient elle aussi d'ouvrir une représentation taïwanaise dans la ville d'Aix-en-Provence. C'est la seconde. Il s'agit de démontrer que le chantage d'un recours à la force sera en fait contre-productif et que finalement, ce serait même contraire aux ambitions de Pékin.
L'œil de Didier François, tous les soirs dans ce journal de 19h sur Europe 1. Merci Didier.
C'était le journal d'Isabelle Billet, la météo, 19h16.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo, c'est avec Anissa, comme chaque soir, 19h16. On est en direct sur Europe 1 et vous nous annoncez, Anissa, des grisailles en début de journée demain.
Oui, mais alors vraiment pour le lever du jour, nous aurons sur l'Auvergne, l'Alsace, la région lyonnaise et le centre Val-de-Loire des petites grisailles. Soyez extrêmement prudents si vous prenez la route car ces nuages bas peuvent gêner la visibilité. Mais ces nuages vont se dissiper au fil des heures. Sur la façade atlantique et l'Occitanie, là, le soleil brille. Et puis dans l'après-midi, sur l'Alsace, les frontières suisses et la Corse, nous aurons des petites ondées. Rien de très inquiétant, vraiment quelques gouttes. Dans le sud, en bord de Méditerranée. Le Mistral et la Tramontane soufflent toujours jusqu'à 60 km/h. Les températures 4 à 18 degrés demain matin, 4 pour Aurillac, 18 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, ça commence à grimper dans le sud, mais on aura toujours 20 à Belfort, 23 à Paris, c'est frais, 25 à Nice, 27 à Montpellier et 29 pour Nîmes.
Merci Anissa. 19h17, on ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes du Club des Idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est avec le chef d'entreprise Denis Père. Bonsoir Denis.
Bonsoir Julien.
On vous présente souvent comme un serial entrepreneur, fondateur de Business Object notamment, créateur aussi du mouvement Nous Citoyens. Vous avez une parole libre Denis et ce soir vous nous dites vive la transition énergétique non subventionnée. Mais d'abord, vous vouliez commencer, je crois, par un message optimiste pour les jeunes.
Oui Julien, je souhaite faire passer un message optimiste pour les jeunes en ce jour de rentrée scolaire. Ils sont souvent très préoccupés par le réchauffement climatique. Certains en Suède voudraient même arrêter leurs études car ils n'ont plus d'espoir. Ils ne sont pas toujours conscients que nous, les boomers, nous travaillons à résoudre le problème et qu'on est probablement en train d'y arriver. J'ai un message optimiste aussi pour leurs parents, pour lesquels la transition énergétique est perçue comme n'existant que par les subventions et générant de nouvelles taxes. Vous vous souvenez des gilets jaunes, Julien, certainement. On ne voit souvent pas les bonnes nouvelles de la transition énergétique. De moins en moins de subventions, de plus en plus d'emplois en France.
Alors j'ai envie de vous dire, ok Boomer, expliquez-nous.
Alors, d'abord, la baisse des coûts a été spectaculaire. On a donc moins besoin de subventions. Prenons l'exemple de l'éolien offshore, par exemple, ce qui se passe en mer. L'éolien offshore, ça permet d'aller chercher les vents les plus forts et les plus constants au large et de s'éloigner des zones habitées où les éoliennes ne sont pas toujours les bienvenues. Il y a 2 gigawatts, ce qui équivaut à 2 réacteurs nucléaires qui sont en construction en France et le projet de construire 1 gigawatt par an. Avec le site de Dunkerque, remporté par EDF il y a un an, à 44 euros par mégawattheure, il y a eu une division par plus de 4 de ses coûts en 7 ans. Le résultat qui va enchanter les contribuables de notre pays, où les impôts ne manquent pas, comme vous le savez, Julien, la plupart des projets récents en mer du Nord, au large des Pays-Bas et de l'Allemagne, sont sans subvention. Alors, c'est aux Pays-Bas en Allemagne, ce n'est pas en France.
Oui.
Quand on compare avec le coût du nouveau nucléaire, c'est 3 fois moins cher.
Ok, c'est moins cher, mais c'est intermittent, pas comme le nucléaire.
Oui, et bien sûr, il faut du stockage, car le solaire et l'éolien, effectivement, sont intermittents. Il n'y a pas toujours du vent et du soleil. On a vu en Californie cet été ce qui se passe quand on n'a pas assez de stockage, avec des coupures de courant en répétition. Mais avec des énergies intermittentes 3 fois moins chères que le nucléaire, on peut financer beaucoup de stockage. Alors justement, un exemple de stockage sans subvention en France, qui va même faire baisser les impôts, un projet en Martinique de 7 mégawatts avec le procédé bien connu du pompage-turbinage ou des STEP, On stocke avec du dénivelé, de l'eau en circuit fermé et qui donc n'est pas consommée dans des petits bassins de 1 ou 2 hectares. Cela remplace des centrales thermiques au fioul. Le bureau d'études Compass Lexecon a montré que ce petit projet permettra des économies pour le réseau électrique de Martinique de 40 millions à 500 millions d'euros sur les 30 prochaines années en fonction des scénarios de déploiement d'énergie renouvelable en Martinique. C'est un projet sans subvention spécifique qui va faire baisser les impôts car l'électricité est assez subventionnée en Martinique pour ne pas coûter plus
cher. C'est une ode ce soir aux économies, aux énergies alternatives, au nucléaire. Mais l'économie dans tout ça, Denis ?
Alors l'économie dans tout ça, eh bien, au-delà de la baisse des subventions, il y a l'activité économique que génèrent ces projets. Nous sommes, Julien, face à une véritable révolution industrielle avec potentiellement beaucoup de création d'emplois en France et partout en France. L'ADEME parle de 340 000 nouveaux emplois d'ici 2035. On peut revenir à nos deux exemples rapidement. Pour l'éolien offshore, ce sont très gros chantiers qui sont situés à proximité des sites, donc en France. Chaque éolienne fait presque la taille de la tour Eiffel. Les pales font plus de 100 mètres. Les turbines sont souvent...
Ce qui fait hurler d'ailleurs, parfois. Ce qui fait hurler les riverains.
Oui, mais c'est loin. On est à 20, 30, 40 km des côtes. Donc on les voit moins. C'est ça l'intérêt de l'offshore. Et donc les turbines, ben, elles sont souvent fabriquées par GE, l'ex-Alstom Power, sont fabriquées à Saint-Nazaire le plus souvent. Vinci construit une usine au Havre avec 750 emplois pour les structures. GE a ouvert une usine de pales d'éoliennes à Cherbourg avec déjà 300 emplois. Ce sont des emplois qui sont accessibles au plus grand nombre de chaudronnerie ou de génie civil. Et puis enfin, pour notre dernier exemple dans le stockage d'énergie, notre petit site de 7 MW en Martinique, qui va donner du travail à 100 personnes pendant 2 ans avec les emplois directs et indirects, dont 25% en insertion. Il y en aura probablement beaucoup d'autres parce que les besoins de la Martinique, selon l'ADEME, sont plus de 30 fois supérieurs. Et en métropole, on peut installer ce type de petit site de stockage dans les 352 stations de sport d'hiver. Cela donnerait du travail à près de 9000 personnes par an pendant 8 ans dans les vallées des Alpes, des Pyrénées, du Jura et des Vosges.
Du boulot. Donc, vive les énergies alternatives et à balle nucléaire, c'est ça ce que vous
dites,
Denis
Père ? Non, pas à balle nucléaire, parce que le nucléaire, il est là, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Mais vous savez ce qui va se passer ? Je pense qu'on va diluer le nucléaire simplement en déployant de nouveaux sites renouvelables et qu'on va arriver à 50% sans fermer de centrales nucléaires. C'est mon pari à moi. Et puis, peut-être en conclusion, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que toujours aux jeunes, mon message aux jeunes, en ce jour d'entrée scolaire, ne laissez pas encore tomber vos études comme certains voudraient vous y pousser. On a besoin de beaucoup de gens bien formés pour mener à bien tous ces projets.
Europe 1, Julien Bugier.
Merci Denis Père, entrepreneur et fondateur du mouvement Nous Citoyens. La carte blanche du Club des Idées d'Europe Soir, c'est donc tous les jours à partir de 19h22. Dans quelques secondes, le grand débat du Club des Idées consacré ce soir à la démocratie et la liberté d'expression. La France est-elle toujours Charlie ? A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec comme chaque soir le grand débat du Club des Idées, et ce soir c'est un sujet fondamental qui nous est cher, sur lequel nous avons décidé de nous arrêter. La liberté d'expression, le socle de notre démocratie. À la veille du procès historique des attentats de Charlie et de l'hypercachère, Charlie Hebdo a justement décidé de republier les caricatures du prophète Mahomet. Nous ne renoncerons jamais, a déclaré le directeur du journal RIS. Eh bien, on en parle ce soir. Peut-on encore critiquer l'islam ? 5 ans après, les Français sont-ils toujours Charlie ? Et y a-t-il, comme l'affirment certains, un séparatisme islamique qui est à l'œuvre en France ? On en parle ce soir avec Hakim El Karoui, président de l'Association musulmane pour un islam de France. Bonsoir. Le dessinateur Plantu. Bonsoir Plantu, merci d'être là. François Cross, directeur du département politique de l'IFOP, auteur d'une grande enquête, on va en parler, sur le droit au blasphème. Bonsoir. Et puis Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ?» C'est aux éditions Hermant. Vous êtes avec nous par téléphone et on vous entendra dans quelques instants. D'abord, peut-être une question à vous, Plantu. C'est une publication nécessaire, cette nouvelle une avec le prophète Mahomet ?
Ah, ben ça commence bien. écoutez, moi je suis dessinateur. Et mon rôle en tant que dessinateur, c'est une des raisons pour laquelle j'avais créé une association qui s'appelle Cartooning for Peace avec Kofi Annan. C'est d'essayer de comprendre pourquoi tel dessinateur, pourquoi il publie un dessin et pourquoi ça part en sucette et pourquoi des fois les gens ne comprennent pas. Donc moi, en tant que dessinateur, ce n'est pas à moi de dire à un autre dessinateur ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Comme moi-même, je n'aimerais pas qu'on me dise ouais, « tu dois dessiner ça » ou « tu ne dois pas dessiner ça ». Mon boulot, c'est d'essayer de comprendre et de faire des liens. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle, depuis 2005, avec mon association, on va dans les lycées, des fois un peu compliqués, en France, dans le Maghreb, au Proche-Orient, à Chypre, il n'y a pas longtemps, et pour essayer de dire, vous savez, les dessinateurs danois qui avaient fait les fameux dessins qui sont republiés aujourd'hui, jamais de la vie...
Qui ne les font plus, Plantu ?
Jamais de la vie, ils ne, d'abord, ils ont décidé de ne plus le refaire, mais deuxièmement, jamais de la vie, ils n'ont voulu humilier 2 milliards de musulmans. Or, c'est comme ça que ça a été compris. Donc, c'est tout le travail qu'on fait à Cartooning for Peace, d'essayer de faire des liens entre les chrétiens, bien, les juifs, les musulmans.
Alors, cette une, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de la voir, tout ça est écrit en lettres jaunes sur fond noir, avec au milieu le dessin qu'avait fait Kabu. Kabu qui a été assassiné par les terroristes du prophète, qui se cache les yeux et qui dit ceci: c'est dur d'être aimé par des cons, avec marqué à côté Mahomet débordé par les intégristes. C'est évidemment assez drôle, et puis il y a tout un tas de caricatures qui entourent ce dessin
qui
principal.
Qui sont les 12 dessins du Jylland Posten, le journal qui avait fait publier donc au Danemark les dessins. Et moi je me souviens, je devais faire une expo à Beyrouth.
Oui.
Et on m'a dit non, il y a l'ambassadeur qui m'a téléphoné. Il m'a dit non, il y a l'ambassade est remplie de sacs de sable et de barbelés pour protéger. Oui. Et c'était comme ça dans toute l'Europe. On brûlait à ce moment-là. Il y a eu d'ailleurs 200 morts au Pakistan.
Est-ce que vous diriez, Hakim El-Karoui, que c'est une publication d'abord nécessaire, extrêmement forte, ça c'est sûr, et est-ce que c'est une ode au droit au blasphème et un pied de nez d'une certaine manière aux intégristes?
C'est ce que j'essaye à chaque fois que je rencontre des musulmans ou même des croyants. Je vous dis, j'étais à Chypre il n'y a pas longtemps, des orthodoxes qui ne comprennent pas des fois. Je leur dis, mais vous savez, les dessinateurs, en France, il y a un droit au blasphème, essayez de comprendre. Et c'est des blagues d'adolescents qui font des blagues qui aiment bien casser les carreaux du préau. Voilà.
Hakim El-Karoui, sur cette même question.
Oui, bien sûr qu'il y a un droit au blasphème et qu'il faut le respecter.
Mais on semble l'avoir un peu oublié.
Moi, je ne crois pas. La preuve. Je dirais plutôt que ce sont des sujets qui sont de plus en plus polémiques, avec des confrontations de plus en plus importantes. Mais heureusement, ce droit existe et la liberté d'expression existe. Et elle est réaffirmée. Les gens se battent pour. Et après, il y a des gens qui se battent contre.
Mais c'est important de le rappeler parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a une forme d'autocensure dès qu'on veut ou dès qu'on a envie de critiquer l'islam.
Ça, je pense, pardon, mais c'est totalement faux. Et en 5 ans, regardez les chaînes de télévision en continu, qui parle et qui a le pouvoir de parler, qui s'est installé, comment le débat s'est déplacé, le succès d'Éric Zemmour, etc.
Oui.
Et la banalisation d'un discours très hostile à l'islam, aux immigrés en général, etc. Donc, c'est absolument pas vrai qu'on ne peut pas critiquer l'islam.
Bien.
Non, c'est pas un faux débat. C'est pas vrai.
Bien, et on continue d'en parler dans quelques secondes, juste après la pause avec mes trois invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours dans Europe Soir, le grand débat du Club des Idées, nos invités, on s'intéresse à la liberté d'expression, au droit au blasphème, à la veille du procès contre les attaques Charlie Hebdo et l'hypercachère. La France est-elle toujours Charlie? C'est le titre qu'on a souhaité donner ce soir à ce débat avec nos invités. Hakim El-Karoui, président de l'Association musulmane pour un islam de France, le dessinateur Plantu, et François Cross, directeur du département politique de l'IFOP, auteur d'une grande enquête sur le droit au blasphème. Alors justement, cette enquête, je l'ai là, elle fait un certain nombre de pages, elle est assez conséquente, et elle s'appelle « Les Français sont-ils encore Charlie ?» Peut-être un mot de préambule et votre réponse à cette question. Est-ce que les Français sont toujours Charlie 5 ans après?
Oui, et ils le sont d'autant plus que les attentats de 2015 étaient liés à la polémique qui était née en 2006 sur la publication des caricatures danoises. Et on voit qu'en 2006, les Français étaient beaucoup moins favorables à la position adoptée par Charlie.
Oui.
Et en l'espace d'une quinzaine d'années, ils sont désormais très largement majoritaires. Ils soutiennent clairement le choix éditorial de Charlie. Les choses ont évolué plutôt dans le bon sens, notamment depuis 2015 et l'attentat.
Mais moi, je vois quand même, je me suis un peu plongé dans les chiffres là, et dans les graphiques, qu'on apprend que 31% des Français pensent que Charlie a eu tort de publier ses caricatures, car c'est une provocation. Et ça monte à 69% chez les Français de culture musulmane.
Il y a clairement un fossé entre les musulmans qui perçoivent toute critique du dogme ou des personnages religieux comme une atteinte à leur identité collective, comme même un manque de respect à leur propre personne.
Oui.
Alors que le reste de la population ne perçoit pas les choses comme ça.
Il y a un deuxième indicateur, moi, qui m'a frappé, page 19, à la question « Participeriez-vous à la grande marche Je suis Charlie ?» Si nous étions en 2015, seuls 53% des Français disent oui. 53% seulement des Français, moi je trouve que c'est assez peu tout de même, et ils ne sont que 39% de Français de confession musulmane à répondre par l'affirmative à la même question.
C'est un peu un exercice de politique fiction. On les a invités à se replonger en 2015 pour savoir s'ils auraient participé aux marches, aux minutes de silence. Il faut savoir que notamment dans les écoles, il y a eu tout un nombre d'incidents qui avaient posé la question de la position des musulmans, certains disant qu'ils étaient très indifférents ou ambigus sur le sujet. on a quand même dans cette enquête un chiffre qui montre que la majorité des musulmans condamnent les auteurs des attentats.
Réaction à Kemal Karoui.
Je crois que la difficulté pour les musulmans, c'est faire la différence entre attaquer le prophète, attaquer l'islam, attaquer les musulmans. C'est pas pareil. Attaquer les musulmans, les individus en France, c'est interdit.
Oui.
Mais par contre, on a le droit d'attaquer les idées, quelles qu'elles soient, y compris les religions. Et ça, clairement, ils n'ont pas fait. Beaucoup d'entre eux ont eu une difficulté à faire cette distinction. L'autre chose, c'est comprendre ce que vous voulez dire et ce que veut dire « je suis Charlie ». Je suis Charlie, ça veut dire « je suis la liberté ». Ce n'est pas « je suis le blasphémateur ».
Bien.
Et c'est pour ça que c'est très important de défendre jusqu'au bout, jusqu'au le droit au blasphème.
Mais je reviens sur ma question initiale, liberté d'expression, droit au blasphème. Est-ce que la peur a d'une certaine manière gagné ? Il y a deux lignes qui s'exprime aujourd'hui dans l'actualité et dans le débat public. Il y a Philippe Val d'un côté et puis François Hollande. L'ancien président de la République disait par exemple dimanche soir sur France 2 « Les terroristes ont perdu parce que… » Et voici la suite.
Ils ont perdu parce que la réaction du peuple français, ça a été admirable. Cette manifestation du 11 janvier, 4 millions de personnes, des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Et dans cette manifestation du 11 janvier, il y avait à la fois la liberté d'expression, la police… qui était salué, et il y avait la stigmatisation de la haine, celle de l'antisémitisme.
Voilà, François Hollande, ancien président de la République, dimanche sur France 2. Et puis il y a Philippe Vabl qui, lui, dit ceci.
Je crois que oui. On a perdu une bataille. Est-ce qu'on peut travailler librement, faire des reportages, écrire, se balader dans la rue, avoir des rapports humains normaux pour se nourrir, quand on est sous une telle menace aujourd'hui, et quand on a vécu ça, est-ce que c'est encore possible? Donc on a perdu.
Voilà, Philippe Val en 2015, on a perdu et il dit aujourd'hui « Je m'exprime aujourd'hui librement en France, certes, parce que je suis sous protection policière, donc ce sont les terroristes qui ont gagné. » Plantu, votre réaction, qui a gagné aujourd'hui? La liberté d'expression ou les terroristes?
Au bout du compte, les droits de l'homme l'emporteront. Parce qu'il faudra faire un sursaut pédagogique dans les écoles pour qu'on puisse essayer de mieux se parler, mieux se comprendre. Et d'ailleurs, j'avais fait un bouquin il y a un an qui s'appelle 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter.
Oui.
Et que j'avais fait, c'était un entretien avec, en plus,
pardon, ça me fait sourire, mais
avec le recteur de la mosquée de Paris. C'est-à-dire que je me souviens que quand je lui ai dit je voudrais bien faire un livre avec vous pour échanger avec vous, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui déplaît dans les dessins, jusqu'où on peut aller. Et il m'avait épaté, Dalil Boubekeur, parce que même il avait été même très loin, il avait même dit vous savez, mais le Dieu, pour moi, je ne sais même pas si c'est un rond ou un cube.
Oui.
Donc, moi, ça m'a plu. J'aimais bien cette conversation. Donc, on a parlé des salafistes, on a parlé de tout ce qui touche à une partie de la population qui, elle, n'est pas du tout, qui ne croit pas que la République passe avant les croyants et son boulot, et le boulot de beaucoup de musulmans, et j'espère de beaucoup de professeurs, on en est au tout début de la conversation, fait qu'au bout du compte, la laïcité qui protège les religions passera avant tout, avant le dogme. Et à la fin du compte, on pourra mieux se parler. Pour le moment, on n'en prend pas le chemin.
Alors Hakim El Karoui, vous êtes président de l'Association musulmane pour un islam de France. Pour avancer par rapport à la conversation qu'on avait au début de ce débat, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a un entrisme d'un islam politique qui est en train de segmenter la société française? Vous savez, c'est le fameux séparatisme qu'on entend beaucoup dans le débat public.
Oui, et en 2016, avec l'IFOP, on l'avait mesuré, on avait vu, on avait fait une typologie de musulmans, on avait vu qu'on avait plus d'un quart qui était d'une façon ou d'une autre lié à cette forme de perception de l'organisation de la société, où il y a l'islam d'un côté qui est première, et puis la République, les valeurs de la République de l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire aussi qu'il y a les trois quarts des musulmans qui ne sont pas dans cette dynamique-là.
Oui.
Et sur ce sujet-là, il faut parler de ce qui ne va pas, il faut parler de ce qui va aussi. Parce que si on ne parle que de ce qui ne va pas, en fait, on est omnubilé, il y a un effet de loupe, et puis on pense que les gens dont on parle là représentent la majorité, voire la totalité des musulmans. Et derrière, on essentialise, et on dit donc c'est l'islam.
Oui.
Non,
oui.
C'est compliqué. L'islam, d'une certaine manière, ça n'existe pas. L'islam, c'est ce que les musulmans en font. Et en France, c'est ce que les musulmans de France en font. Il y a, à l'intérieur de la communauté.
Mais pour lutter contre les dérives d'un islam politique, il faut quand même nommer les choses.
Bien sûr.
Et il faut le dire.
Il faut le dire, et il faut que ce soit les pouvoirs publics, mais il faut surtout que ce soit les musulmans qui le disent. Les musulmans sont les premières cibles des islamistes. Les islamistes.
Vous trouvez que les représentants du culte sont aujourd'hui trop timides dans la dénonciation de cet entrisme ?
Les représentants, les musulmans en général.
Oui.
Qui ne se sont pas organisés, qui, pour certains, ont voulu nier le problème. Pour d'autres, considèrent que c'est un problème pour eux. Ils n'ont pas envie d'en rajouter, ils n'ont pas envie de s'engager parce qu'ils le vivent au quotidien. Ce sont eux les premières cibles. Et puis, les représentants du culte, souvent, ils ont été obnubilés par des questions de pouvoir interne. Et pas du tout par ce sujet-là.
On poursuit le débat dans quelques instants avec Jean-Pierre Aubin, notamment ancien inspecteur de l'éducation nationale, auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Hermann. Il sera avec nous en direct dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et il est 19h41, on est toujours en direct dans Europe Soir avec le grand débat du Club des Idées. On continue sur cette thématique importante et fondamentale même qui nous est chère, la liberté d'expression, le socle de notre démocratie à la veille du procès historique des attentats de Charlie. Et puis cet entrisme, ce séparatisme qu'on pointe souvent du doigt d'un certain islam politique en France. La France est-elle toujours Charlie ? C'est l'intitulé de notre débat du Club des Idées ce soir. Et on en parle avec Hakim El-Karoui, président de l'Association musulmane pour un islam de France. On en parle aussi avec le dessinateur Plantu. On en parle également avec François Cross, directeur du département politique de l'IFOP. Et puis Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». C'est aux éditions Hermann. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et d'avoir patienté. Vous êtes en direct par téléphone. Et c'est vrai que vous publiez un livre, ça se passe évidemment à l'école, et vous racontez votre expérience. Vous êtes ancien inspecteur de l'éducation nationale. Votre livre s'appelle, je le disais, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Vous aviez déjà, dites-vous, alerté il y a 15 ans dans un rapport, mais rien n'a bougé. Et vous évoquez, pêle-mêle, les tables séparées entre musulmans et non-musulmans, l'organisation du personnel éducatif par rapport à cette forme de séparatisme, les excuses aussi des jeunes filles pour sécher les cours de piscine, certains auteurs, certaines parties du programme d'histoire qu'on ne peut plus aborder. C'est ça aujourd'hui la réalité de l'éducation nationale dans certains quartiers ?
C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est qu'en 15 ans, les choses ne se sont pas améliorées. Les atteintes à la laïcité, certaines, vous les nommez, il y en a bien d'autres, je pourrais donner des exemples.
Allez-y.
Se sont largement étendues en France, et puis ils atteignent le primaire. Une grande partie de ces atteintes à la laïcité maintenant sont dues aux parents, et même, pour 11% d'entre elles, à des personnels de l'éducation nationale, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant. Quelques exemples. On parle de la liberté d'expression. Pour un enseignant, ce n'est pas la liberté d'expression qui est importante, c'est le devoir d'expression, c'est-à-dire son obligation de faire le programme. Savez-vous que d'après une étude de l'IFOP, il y a près de 40% des enseignants qui déclarent s'auto-censurer pour ne pas provoquer d'incident avec les élèves. Et que dans les zones d'éducation prioritaire, ils sont plus de 50%, c'est-à-dire une majorité de professeurs qui ne fait pas tout le programme, qui censure un thème. Alors les disciplines les plus atteintes, c'est les sciences de la vie et de la terre, l'histoire, géographie, oui, par exemple, mais aussi le français, la philosophie. Et simplement parce qu'ils craignent des incidents ou qu'ils ont eu des incidents, ils ne veulent pas que ça se reproduise.
Et comment il y a un rapport de l'inspection. Comment vous expliquez cette évolution depuis 20 ans et depuis une quinzaine d'années ? Vous aviez alerté, rien n'a bougé, puisque les gouvernements successifs, c'est un peu en creux ce que vous dites, ont fermé les yeux, n'ont pas voulu voir ou n'ont pas voulu agir. Comment vous expliquez cette dérive ? Est-ce que ce sont des forces politiques qui sont à l'œuvre, les frères musulmans pour ne pas les citer, ou les salafistes dans certains quartiers qui prennent le pouvoir, délaissés par l'absence des pouvoirs publics par exemple, par l'absence d'autorité de l'État? C'est ça qui se passe réellement?
Alors ce qui se passe réellement, c'est tout le propos de mon livre, c'est-à-dire que le constat fait, avec un certain nombre d'études qui sont en notre possession maintenant, et puis les illustrations que je donne, il s'agit de passer à l'analyse, de savoir effectivement pourquoi on en est arrivé là et pourquoi ça a pu se développer,
oui,
en tout cas jusqu'à 2015. Il faut pointer les responsabilités, oui, des forces politiques, mais aussi de l'éducation nationale, c'est-à-dire le manque de formation des enseignants, la pusillanimité de l'administration, c'est-à-dire son manque de courage, vous savez, le fameux slogan « surtout pas de vagues ». Et puis aussi, le comportement d'un certain, des parents d'élèves,
oui,
qui de plus en plus vont aller pour protéger leurs enfants, par peur, vont les changer d'établissement. Ce qui fait que les établissements se ghettoïsent de plus en plus.
Alors, réaction en plateau de Hakim El-Karoui. Vous êtes président donc, de l'association, je le répète, musulmane pour un islam de France. Même question, qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière cela? Quand on analyse les chiffres, on voit que 74% des musulmans de moins de 25 ans font passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République. Comment est-ce qu'on l'explique, ça?
Il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que l'islam est, pour les jeunes musulmans de France, beaucoup plus qu'une religion, c'est devenu une identité.
Culturelle.
Une identité globale.
Une identité.
Avec des entrepreneurs religieux qui leur disent bah, « Regarde, t'es pas complètement français, t'es discriminé, les gens t'aiment pas, etc. T'es plus de ton pays d'origine, t'es plus algérien, marocain, qu'est-ce que t'es ? Bah, t'es musulman. Et musulman, ça veut dire ça. Ça veut dire une forme de rigorisme dans la séparation entre les sexes. Ça veut dire une échelle de valeur où il n'y a rien au-dessus de la loi religieuse. Ça veut dire aussi un groupe qui se sent en conflit avec le reste de la société française, avec une séparation entre eux et nous. Nous, on doit se préserver d'eux. Bon, et d'ailleurs, en face, il y a des gens d'extrême droite qui disent « Nous, il faut qu'on se préserve. »
C'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation de la société française.
Ça en fait partie. Et c'est aussi une dynamique générale de la société française. C'est-à-dire que ce n'est pas les musulmans tout seuls. Il y a cette dynamique-là, elle est globale à plein de groupes.
C'est ce que vous observez aussi dans les chiffres, François Croze. Vous êtes directeur du département politique de l'IFOP.
Oui, on le retrouve, cette archipélisation, y compris aussi au niveau régional, avec les séparatismes corse, basque et d'autres formes d'identité locale. Mais c'est vrai que ce n'est pas un phénomène purement musulman. On l'a retrouvé aussi chez notamment les juifs dans les années 80-90, peut-être un peu moins maintenant. Mais dans tous les cas, dans l'enquête, on voit que les musulmans se distinguent par un rapport beaucoup plus orthodoxe à la religion et à un respect beaucoup plus strict du dogme et des préceptes religieux.
L'œil du dessinateur que vous êtes plantu. Peut-être je vais vous demander une réaction et vous réagissez si vous avez envie de le faire. Richard Malka, l'avocat des victimes de Charlie Hebdo et de Charlie Hebdo, dit « J'éprouve de la colère contre cette gauche souvent radicale qui nous a poignardés en devenant bigote. » Est-ce que ça vous inspire ?
Bigote de quel côté ? Du côté des cathos ?
Parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de critiquer l'islam et que dès qu'on commence à critiquer l'islam, y compris le blasphématoire, comme avec les caricatures de Mahomet, eh bien on est taxé d'islamo-gauchiste, on est taxé de... Vous voyez, est-ce que vous partagez cette analyse ?
Moi, ce que je ressens, c'est exactement ce qui a été dit par votre interlocuteur qui a été dans les écoles. Parce qu'en fait, je vais énormément dans les écoles et ce qu'ils racontent, moi, je le vis depuis des années. C'est-à-dire que moi, je tiens beaucoup à faire de la pédagogie, à aller dans les écoles. Et d'ailleurs, pour prolonger ce qu'il a dit sur l'autocensure, nous, on fait des expos avec des dessinateurs du monde entier, avec des Israéliens, des Palestiniens. Et parmi les panneaux, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que c'est qu'un dessin, qu'est-ce que c'est que la caricature, on a des dessins avec les Palestiniens et les Israéliens, des dessinateurs israéliens et palestiniens. Donc, il y a des étoiles de David. Eh bien, nous, on envoie des expos à Cartooning for Peace dans certaines écoles, et les panneaux qu'on leur envoie, quand il y a l'étoile de David, ils sont rangés dans les tiroirs, ils ne sont jamais présentés, dans certains endroits. Heureusement, la plupart du temps, en France, et je remercie les profs, ils sont exposés. Mais il y a des endroits, non, on n'y touche pas. Et d'ailleurs, je me souviens que dans une école, il y avait un gamin qui voulait me poser, ils étaient 500.
Oui.
C'était chaud, hein. Parce que si je vais dans des endroits chauds et je vais bientôt...
Pour faire de la pédagogie, c'est bien de
le faire. Pour faire de la pédagogie. Il y a un gamin qui lève le doigt et les autres disent, non, pas lui, c'est le feuge. Alors je vais voir les profs. Il me dit non, il n'est pas juif, mais il ne l'aime pas. Et donc tout le monde trouvait normal dans cette école que quand on n'aimait pas un gamin, c'était le feuge, c'était le juif.
Bien.
Et je me dis, il y a un problème. Autre problème que nous ressentons, c'est qu'un dessin hollandais qui est là avec un petit bonhomme qui est avec sa petite échelle qui va dans un nuage et l'autre en bas de l'échelle, il dit alors, d'un air de lire, qu'est-ce qu'il y a dans les nuages ? Ce dessin-là, dans certains endroits, parce que c'est un dessin sur le doute, eh ben, le doute, des fois, est interdit.
Le doute est interdit, ce sera le mot de la fin. Merci Plantu et merci à mes invités d'avoir été ce soir en direct dans Europe Soir, le grand débat du Club des Idées, pour parler de ce qui nous attend dans les années qui viennent. Le droit à la liberté, c'est important. La liberté d'expression et le droit au blasphème à la veille de ce procès donc des attaques de Charlie. 19h50, on se retrouve dans un instant avec Le Jour Où, la rubrique où on regarde dans le rétroviseur. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le Club des Idées d'Europe Soir qui se poursuit. Et maintenant, on donne un coup de rétroviseur. Chaque soir, vous le savez, on prend du recul et on plonge dans les archives pour éclairer l'actualité. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle Le Jour Où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà.
Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Ce soir, nous remontons le temps pour nous arrêter en 70. C'est l'année qui marque la mort du général de Gaulle, le 9 novembre. Il s'éteint à Colombey-les-Deux-Églises. Un événement qui donne naissance, en quelque sorte, cette même année, Pauline, à l'hebdomadaire qu'on célèbre ce soir, Charlie Hebdo.
Oui, puisque Charlie Hebdo naît quelques jours après la une de l'hebdomadaire Harakiri, balle tragique à Colombey, un mort. Référence au décès du général et à l'incendie d'une discothèque en Isère qui a eu lieu un peu plus tôt. Ce titre provoque un tollé dans la classe politique. Le journal est alors interdit. Réaction du dessinateur Georges Wolinski le 17 novembre 1970 au micro d'Europe numéro 1.
Comment est-ce qu'on a réagi dans l'équipe d'Harakiri ?
Eh bien, comme d'habitude, lorsqu'il nous arrive des choses comme ça, c'est quand même la troisième fois, nous avons beaucoup ri. C'est un journal d'humour, tout simplement, et l'humour, c'est l'intelligence. Et nous essayons de nous adresser à des gens aussi intelligents que nous, au moins. Nous ne prenions pas les gens pour des imbéciles, ce qui est une chose rare.
L'hebdo Harakiri est mort. Lisez Charlie Hebdo, le journal qui profite du malheur des autres. Le ton est donné, satirique, ironique, irrévérencieux jusque dans son titre. Charlie Hebdo, en référence au personnage de bande dessinée Charlie Brown, mais aussi au grand Charles, le responsable indirect de cette naissance, Charles de Gaulle.
Et quand on pense à Charlie Hebdo, Pauline, on pense évidemment à ces dessinateurs qui formaient un groupe et qui a tout de suite participé à la ligne éditoriale du journal.
Cabu, Topor, Reiser, Wolinski, GB, Willem, c'est toute une génération de dessinateurs de presse marqué par la guerre d'Algérie qui fait Charlie Hebdo. Cabu prônait par exemple la non-violence depuis la fin de la guerre, d'où le côté aussi anti-militariste très fort du journal. Cabu qui racontait les débuts de cette bande Charlie Hebdo, une grande bande d'amis au micro de Frédéric Taddeï en 2006.
Reiser est arrivé très vite. Reiser était coursier chez Nicolas, vous vous rendez compte, les vins Nicolas. Moi j'étais bien, j'étais en deuxième position. Après est arrivé Wolinski, retour de service militaire. Après GB, on était tous débutants. Hein. On nous a toujours pris pour des anarchistes. On est plutôt... Enfin, Cavana dit qu'on est des républicains, non-violents, écolos. Vous voyez, on n'est pas contre l'État. Les gens ont beaucoup cru qu'on est... Parce qu'on est des conneurs, mais on est plutôt pour un État protecteur, vous voyez, plutôt pour un État solide, quand même.
Il faut avoir des partis pris, disait Cabu. Ce journal a quelque chose à dire. S'attaquer au tard de la justice, de l'armée, de la médecine, de l'éducation. Ce sera toujours sa ligne de conduite. Pour ces journalistes, le dessin est une tribune libre qui a le droit d'être injuste et de mauvaise foi.
La religion, d'ailleurs, Pauline, d'emblée critiquée dès la naissance du journal.
Oui, la provocation maniée depuis le début. Provocation des extrémismes religieux, de tous les obscurantismes, du catholicisme, de l'islam. Cette volonté de moquer, de critiquer, s'entend dans les mots de Charb, interrogé sur Europe 1 en novembre 2011, quand les locaux de Charlie Hebdo sont incendiés. Charlie Hebdo, qui s'était alors renommé Charia Hebdo à la suite de l'élection du parti islamiste Ennahda en Tunisie.
La suite, là, c'est on va essayer de se démener pour trouver du matériel et des locaux pour sortir un numéro la semaine prochaine. Parce que de toute façon, il en va de la survie de Charlie. Et puis même sur le principe, je me démerderai comme il faut, mais je laisserai pas le terrain aux islamistes.
Un message qui résonne encore très fort, particulièrement aujourd'hui, à la veille du procès des attentats de janvier 2015, à la veille de la publication de Charlie Hebdo, évidemment, ce numéro où Rhys écrit « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais », où il brandit finalement ses désirs d'insolence et de liberté qui ont toujours guidé le journal depuis sa création.
Et plus que jamais, nous sommes Charlie. Merci beaucoup, Pauline. Un jour où, le jour où, c'est tous les soirs à partir de 19h50 dans le Club des Idées d'Europe Soir. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la musique. Émilie Mazoyer, bien sûr, le journal. On se retrouve nous demain, même lieu, même endroit, de bonne heure, de bonne humeur, à partir de 18h. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer. Ciao.